Bonsoir à tous et à toutes. Chère Judith, tous ceux qui sont là ont une raison précise d'être venus, raison qu'ils ont trouvée dans une de vos œuvres très nombreuses et très diverses. Ce serait nous faire perdre du temps à vous, à eux, que de prétendre ici leur expliquer pourquoi ils sont venus. Je voudrais simplement dire qu'il y a un changement qui se produit, pas seulement dans le monde, ça c'est tellement plat que de le redire, mais il y a un changement, je crois, qui est en train de se produire dans la pensée. Un changement très profond, très radical, dont les signes ne sont pas toujours ni manifestes, ni encore moins toujours très clairs, mais que je crois assurer que vous êtes pour quelque chose de très profond dans ce changement. Vous nous aidez à changer notre mode de pensée et donc sans doute aussi en partie quelque chose qui concerne le rapport entre nos pensées et nos vies, puisque vous réinventez à votre façon une articulation entre une pensée extrêmement exigeante, très difficile, par moments extrêmement spéculative, et des propositions très, très précises et très concrètes de la vie de chacun d'entre nous. Puisque c'est aujourd'hui notre dernière séance dans ce cycle de conférences du cycle du groupe de recherche théorique, qui a été inauguré cette année, dont vous êtes la 8e et dernière conférencière pour cette saison, c'est peu de dire que nous sommes, tous ceux qui avons animé ce groupe, très fiers, très heureux de vous accueillir. Je voudrais remercier Paola Marati, sans qui cette rencontre n'aurait pas pu se faire, qui nous a permis d'entrer en contact avec vous et de commencer l'échange qui se poursuit ici ce soir. Merci beaucoup, Judith, d'avoir si amicalement répondu à notre invitation.
Denis, pour votre introduction.
Oui. On va essayer. Vous occupez pas, je m'occupe.
Okay. C'est bon.
On va voir.
Chaud, n'est-ce pas? Oui. Ok. Je souhaite aujourd'hui me demander en quoi peut consister la revendication d'une éthique de la non-violence. Il doit être possible d'affirmer l'existence d'une certaine rupture critique entre la violence par laquelle nous sommes formés et la violence avec laquelle nous nous comportons une fois que nous sommes formés. En effet, parce que quelqu'un est formé dans la violence, le plus exactement, comme quelqu'un est formé dans la violence, sa responsabilité n'en est que plus grande et plus urgente de ne pas répéter la violence de sa propre formation. Pour comprendre cela, il nous faut aborder la question de ce que c'est que d'être formé et plus particulièrement de ce que c'est que d'être formé par des normes. Quel est le pouvoir formatif des normes? S'agit-il d'une formation qui a lieu une seule fois, qui est passée ou qui continue d'agir et d'exercer son efficacité de manière prolongée? Après tout, si l'on considère le cas d'une formation par des normes de genre ou même par des normes raciales, celles-ci agissent de manière productive et établissent ou défendent certaines sortes de sujets, non seulement dans le passé, mais encore de façon répétée. Suis-je intelligible? En français. Ok. Vous êtes toujours là. Ok. De ce point de vue, elle n'est donc pas possible de raconter l'histoire du commencement de l'action productive de telle norme, même si l'on peut, en allant recours à la fiction postulée de tel commencement et ce de manière souvent fort intéressante. On peut sans doute essayer d'indiquer le moment où l'endroit où une certaine formation est censée avoir été accomplie, mais là aussi, je serai prête à parler qu'il y a toujours dans une telle chronologie une part de mauvaise foi. Si le genre, par exemple, agit sur nous au commencement, il ne s'arrête pas pour autant d'agir sur nous, et les principales impressions ne sont pas de celles qui ont un début et une fin dans le temps. Ce sont plutôt des impressions qui établissent la temporalité de nos vies comme étant liées à l'action contenue des normes, à l'action contenue du passé dans le présent et qui établissent donc l'impossibilité d'indiquer le début ou la fin d'une formation de genre en tant que telle. Il n'est pas possible de dire qu'il existe des conditions normatives par lesquelles les sujets sont produits, puisqu'il existe des ruptures avec de telles conditions. La production normative du sujet est un processus itérable, répété, et en ce sens, c'est un processus qui rompt constamment avec les contextes qui ont été délimités comme ces conditions de production. La notion d'itérabilité est absolument fondamentale si l'on veut comprendre pourquoi les normes n'agissent pas de manière déterminée. Même si nous étions capables de décrire l'origine des normes et de proposer une telle description sans avoir recours à la fiction, à quoi cela nous servirait-il? Après tout, s'il n'est même pas possible de déterminer le but d'une normes à partir de ses origines, et c'est ce que nous dit très clairement Nietzsche à propos notamment des conventions légales. Alors, même si les normes sont issues de la violence, il ne s'en suit pas pour autant qu'elles aient simplement pour destin de répéter à perpétuité la violence qui est à leur origine. Bien même les normes continueraient d'exercer la violence, il se peut bien qu'elles ne l'exercent pas toujours de la même manière. Qui plus est, il faudrait pouvoir démontrer que la violence originaire est bel et bien la même que celle qui se répète et produit la norme au cours du temps. L'origine de la norme détermine-t-elle et limite-t-elle toutes ses opérations futures? Il se peut que l'origine de la norme fonctionne de façon à établir un certain contrôle sur la temporalité, mais une autre temporalité n'est-elle pas également susceptible d'émerger dans le courant des itérations? N'est-ce pas là au moins une éventualité, quelque chose que l'on pourrait essayer de mettre en œuvre, quelque chose que l'on pourrait appeler de ses voeux même? Ce que nous cherchons, ce que souhaitons, ce n'est pas une rupture soudaine avec la totalité d'un passé au nom d'un avenir radicalement nouveau. La rupture dont il s'agit ici n'est rien d'autre qu'une série de déplacements significatifs qui résultent de la structure itérable de la norme. Dire que la norme est itérable, c'est précisément refuser la conception structuraliste de la norme. Je souhaiterais au passage mettre en garde contre l'idée générale selon laquelle toute normativité serait fondée dans la violence. Ce type de propos fonctionne comme un argument transcendantal et ne nous permet pas, par conséquent, de distinguer la situation sociale où les normes fonctionnent pour d'autres raisons ou les situations où le terme de violence ne suffit pas tout à fait à décrire le pouvoir ou la force par lesquelles les normes fonctionnent. Il existe certes des régimes de pouvoir qui produisent et limitent certaines façons d'être, mais je ne suis pas de tout sûr qu'il faille affirmer ou renier une thèse transcendantale où le pouvoir ne ferait plus de toute partie de l'équation et qui rendrait la violence essentielle pour toute ontologie. L'ontologie, c'est, selon moi, en effet du pouvoir, et le pouvoir fonctionne en partie, mais pas exclusivement, à travers les normes. Les interdits éthiques contre l'usage de la violence ne sont pas nécessairement des tentatives pour régner ou refuser la violence qui est ou n'est pas à l'œuvre dans la production du sujet. En fait, pour bien comprendre l'appel à la non-violence, il faudrait sans doute renverser complètement la formule. C'est précisément parce que nous sommes formés dans la violence, ou plutôt quand nous sommes formés dans la violence, et dans la mesure où cette action formative continue toute notre vie, que le problème éthique se pose de savoir comment vivre la violence de notre constitution, comment effectuer des déplacements dans son hydratation. Comment pouvons-nous vivre la violence de notre formation? En quel sens peut-elle être redirigée, si tant est qu'elle peut l'être? Est-il possible d'œuvrer avec cette violence contre d'autres violences et d'opérer ainsi un déplacement dans l'itération de la violence elle-même? En fait, il vaudrait peut-être mieux parler ici d'agression, puisque la non-violence, selon moi, quand elle existe et là où elle existe, implique une vigilance agressive face à la tendance de l'agression à émerger comme violence. La non-violence, en effet, si elle existe, est précisément une lutte vers laquelle tombe la psychanalyse, comme on peut le voir tout particulièrement dans l'œuvre de Melanie Klein. La non-violence comme appel éthique serait en effet incompréhensible s'il n'existait pas une violence qui persiste dans la formation et le maintien du sujet. Il n'y aurait ni lutte, ni obligation, ni difficulté. Il ne s'agit pas ici d'éliminer les conditions de notre propre production, mais seulement d'assumer la responsabilité d'une vie qui contesterait le pouvoir déterminant de cette production. C'est pour moi.
Merci.
Okay. C'est une autre voix. Autrement dit, d'assumer la responsabilité d'une vie qui profiterait du caractère itérable de ses normes et par conséquent de leur fragilité et de leur capacité à être transformée. Or, cela ne saurait se faire en dehors d'une situation où la violence nous effectue aussi bien par l'action contenue de notre formation qu'en vertu d'une série de limites imposées de l'extérieur. C'est en cela que consiste le problème ou la lutte qu'est la non-violence. La non-violence, selon moi, n'a rien à voir avec l'idée qu'il faudrait expier la violence ou purger le domaine de la normativité, de toute violence. C'est bien parce que nous sommes empêtrés dans la violence qu'il y a lutte et que peut émerger dans le cadre de cette lutte la possibilité de la non-violence. L'empêtrement dans la violence, c'est pour ainsi dire la condition de possibilité de la lutte. Et c'est aussi pourquoi cette lutte se solde si souvent par un échec. Si tel n'était pas le cas, il n'y aurait aucune lutte, mais seulement de la répression et de la fausse transcendance. Afin de comprendre cette dernière idée, il pourrait être utile de juxtaposer Emmanuel Levinas et Melanie Klein, histoire de bien saisir l'enjeu de cette lutte que l'on nomme non-violence. Il ne s'agit précisément pas d'une vertu ou d'une position, ni d'une série de principes qu'il faudrait appliquer de façon universelle. Ce que dénote la non-violence, c'est l'empêtrement et l'opposition conflictuelle d'un sujet qui est blessé, d'un sujet plein de rage, qui a accès à une rétribution violente, mais qui lutte néanmoins contre cette action. La lutte contre la violence, c'est une lutte qui accepte que la violence fasse partie de notre possibilité, peut-être. Si nous n'acceptions pas cela, si nous prétendions plutôt être une belle âme, quelqu'un qui, par définition, serait sans agressivité, il n'y aurait pas de difficulté éthique, il n'y aurait pas de lutte, pas de problème. L'élaboration de la responsabilité dans les textes qui nous concernent dépend d'une distinction essentielle entre, d'une part, ce sujet blessé et plein de rage qui prend une position de légitimité morale et adopte un comportement lui-même nocif et plein de rage et qui, par cette moralisation, transforme l'agression en une vertu. Et d'autre part, ce sujet blessé est plein de rage qui, lui, cherche néanmoins à limiter la blessure qu'il inflige, mais ne peut y parvenir que par une lutte active avec et contre l'agression. Dans le premier cas, il s'agit de la moralisation d'un sujet qui renie la violence qu'il inflige. Dans le deuxième cas, il s'agit d'une lutte morale du sujet avec l'idée de la non-violence, d'une rencontre entre l'agressivité propre du sujet et la violence sociale au sein de laquelle la rencontre sociale est ce qu'il y a de propres influences mutuellement. Dans ce deuxième cas, il s'agit d'accepter l'impurité du sujet et de ses relations sociales et d'accepter que les perspectives de l'agression imprègnent la vie sociale. Et le combat auquel je fais référence s'intensifie précisément dans les conditions où l'on a été agressé, blessé et où le désir de rétribution s'accentue. Il peut s'agir d'une lutte personnelle, mais le paramètre d'une telle lutte caractérise très nettement ces situations politiques de conflit où le choix de rétribution se fait immédiatement et au nom d'une certitude morale. C'est cette alliance de la violence et de la moralisation que j'essaie ici de défaire en suggérant que la responsabilité peut trouver un autre ancrage. Il me semble que Levinas est presque psychanalyste, malgré lui, lorsqu'il décrit la situation de Jacob et Esaü et l'extrême difficulté d'obéir au commandement « Tu ne tueras pas ». Quand Levinas décrit le rencontre avec le visage comme étant en même temps la tentation de tuer et l'interdiction de tuer, il fait référence aussi bien à l'angoisse qu'au désir meurtrier produit par le commandement. Il fait référence au chapitre 32 de la Genèse où Jacob apprend l'arrivée imminente de son frère et rival Esaü. Le contexte est celui d'une guerre imminente autour de questions de droit, d'héritage et de territoire. Levinas écrit: Jacob est troublé à l'annonce que son frère Esaü, ennemi ou ami, marche à sa rencontre à la tête de 400 hommes. Le verset 8 nous apprend que Jacob s'effraya beaucoup et fut angoissé. Lorsque l'exégète Rashi analyse cette histoire, il décrit Jacob comme un exemple de la différence entre effroi et angoisse et conclut que Jacob s'effraya de sa mort mais fut angoissé d'avoir peut-être à tuer. Si Jacob devait tuer, il tuerait au nom de sa propre vie. Mais défendre sa vie, plutôt que celle d'un autre, c'est précisément se détourner du visage, c'est-à-dire de l'obligation envers l'autre qui prend la priorité sur l'obligation envers soi-même. Il est intéressant d'ailleurs de noter que Lévinas ne prétend pas qu'il ne faut jamais tuer dans l'autodéfense. Et quiconque connaît ses positions politiques lamentables sur les questions d'Israël verra bien vite qu'il n'a jamais proposé de pacifisme absolu, de politique universalisable, de la non-violence. Ce que décrit Lévinas, c'est une lutte contre la demande de non-violence sans porter aucun jugement sur l'issue de cette lutte. S'il y a, pour ainsi dire, un appel à la non-violence ou une demande de non-violence qui ne provient du visage d'autrui, c'est une demande ou un appel auquel nous répondons en même temps que nous répondons à d'autres appels, à d'autres demandes. Par conséquent, il y a un problème, il y a un conflit, une tâche difficile qui ne saurait résoudre le problème éthique qu'elle pose. En ce sens, on ne saurait attendre ni vouloir d'explication complète de ce qu'est la responsabilité à partir d'une telle position. Et qui sait en quoi consisterait une telle explication. Il faut noter que pour Lévinas, le pays n'est pas un état paisible et que l'injonction de pays produit une angoisse éthique spécifique. Après tout, Jacob craint pour sa propre vie, mais il craint aussi d'avoir à tuer. Il y a peur pour sa propre survie et l'angoisse de faire du mal à autrui, et ces deux impulsions se font la guerre, comme des frères ou sœurs qui se battent. Le combat entre eux est le combat intérieur à chacun, et ce combat a lieu en relation à l'interdiction de la violence. Il y a quelque chose chez les deux qui lutte contre l'interdiction elle-même. Le désir de se défendre, de blesser, d'usurper la place de l'autre, de s'affirmer au nom de la vérité et de sacrifier sa vie pour cette vérité. La seule façon pour eux de ne pas se faire la guerre et d'entrer en guerre contre eux-mêmes et contre le commandement. Ainsi, si la non-violence émerge, celle-ci n'est que la conséquence d'une autre guerre, de la guerre que l'impulsion meurtrière mène contre l'interdiction qui proscrit sa propre réalisation. Ce n'est pas une éthique qui cherche à détruire la violence constitutive de toutes les normes, c'est une mobilisation de cette violence elle-même contre une issue violente particulière et à des fins de non-violence. Pour Lévinas, la violence est une tentation qu'un sujet peut ressentir dans la rencontre avec la vie précaire d'autrui qui est communiquée à travers le visage. C'est pourquoi le visage est en même temps une tentation de tuer et une interdiction de tuer. Le visage n'aurait aucun sens s'il n'y avait pas une impulsion meurtrière contre laquelle il devait être défendu. Et son caractère, son défense, est précisément ce qui nourrit l'agression contre laquelle fonctionne l'interdit. Lévinas a articulé une certaine ambivalence du sujet dans la rencontre avec le visage, un désir de tuer, une nécessité éthique de ne pas tuer. Cette ambivalence prend chez Melanie Klein une autre forme. Les hypothèses de Klein sur la rage meurtrière découlent de son analyse de deuil et de la perte. La relation à l'objet, selon Klein, serait une relation de destruction et de préservation, et l'introjection serait le mode par lequel un objet perdu est préservé. Mais cette solution mélancolique peut avoir des conséquences destructrices. Klein attribue en effet au sujet qui est victime d'une perte une agression dévoratrice, si bien que l'autre qui n'en a pas vu est comme consumé psychiquement grâce à une sorte de cannibalisme. On continue intérieurement d'admonester l'autre qui a été introjecté, et il émerge ainsi une voix critique qui, selon Klein, caractérise le sadisme moral. Ce sadisme moral, à mon avis, est lié à la moralisation de la violence que je viens de décrire. On incorpore celui ou celle que l'on a perdu, c'est une façon de préserver cet autre, mais on lui en veut également du fait de l'ambivalence des relations amoureuses, et on lui en veut de son être allié. Ainsi, la solution mélancolique restructure le moi de telle façon que, précisément, l'autre soit sans cesse préservé et détruit à la fois. Et ce sens que prend de ces processus ne se termine jamais. La rage que l'on ressent envers l'autre et envers la perte de cet autre marque en tenant réflexive de la rage, qui constitue le monologue intérieur et autodestructeur du sujet qui survit. Il faudrait ici signaler que cette ambivalence que relève Klein dans la mélancolie peut être généralisée aux conditions de la mort et de l'attachement en général. La mélancolie, selon Klein, intériorise un objet qui en vient à persécuter le sujet et créer ainsi une situation qui est invivable pour le moi. C'est là de que précipite l'expulsion d'objets internes et ce qu'il s'agisse de bons ou de mauvais objets au sens que Klein donne à ces termes. Freud, dans Deuil et Mélancolie, fait remonter la fonction de surmoi à l'intériorisation et à la transformation de l'autre que l'on a perdu en une voix récriminante, une voix qui dit précisément ce que l'autre aurait dit s'il avait survécu et s'il avait pu entendre les admonitions de celui qui est resté. Cette transmutation de nos reproches à l'autre, à celui qui est absent, se transforme en une voix interne qui est dirigée contre le moi. Aussi devenons-nous la cible de récrimination qui aurait été dirigée vers l'autre, mais qui, par un processus de déviation, sont en fait dirigées contre nous-mêmes. Les reproches que nous ne pouvons pas faire à l'autre, nous ne pouvons finalement les adresser qu'à lui-même, ce qui s'avère être une curieuse façon d'éviter à l'autre, même dans la mort, d'avoir à entendre notre voix. Notre propre voix, curieusement, devient donc l'instrument de notre potentielle destruction. Klein trouve donc ce scénario dans Sourmoi intensifié dans la mélancolie, et il découvre une servitude psychique puisqu'elle décrit longuement l'esclavage auquel le moi se soumet lorsqu'il se plie aux demandes et aux admonitions extrêmement cruelles de son objet aimé qui s'est installé en son sein. Ces demandes strictes, poursuit-elle, ont pour fonction de soutenir le moi dans sa lutte contre la haine incontrôlable et contre ces mauvais objets qui attaquent et avec lesquels le moi est en partie identifié. De façon significative, cette moralisation de la voix comme demande et admonition cruelle précipite la formation de sourds. Celui-ci n'est pas érigé principalement pour limiter la libido, mais joue plutôt le rôle dans un circuit qui s'approprie et retarde l'agression première ainsi que ses conséquences anéantissantes. Le surmoi soutient donc le moi dans sa lutte contre sa propre haine incontrôlable. Il cherche à contrôler une haine incontrôlable en la tenant contre elle-même, une haine qui, si elle n'est pas limitée, entraîne le moi vers un dangereux autosacrifice. Heureusement, il ne s'agit pas ici d'un système clos et certainement pas d'une ontologie fondatrice du sujet, puisque cette économie elle-même peut changer. Point. Cette économie est caractérisée par une instabilité interne, puisque le sujet y est motivé autant par la préservation que par l'anéantissement. Klein évoque comme Levinas une certaine angoisse vis-à-vis du bien-être de l'objet, puisque le sujet était ambivalent depuis le début. Il peut occuper ce conflit de diverses manières. Le soi ressent en relation à l'objet vivant ou mort, de l'angoisse et du remords, ainsi qu'un sentiment de responsabilité. Il se protège de persécuteurs qui sont les figures psychiques des impulsions destructrices du moi, et il protège aussi ceux qu'il aime contre sa propre persécution. La persécution est en effet distribuée en fragments, ce qui signifie l'effondrement de l'objet par l'agression et le retour de cette destruction sous une forme démembrée. Klein fait ainsi référence à la scène psychique de fragments dont l'objet désintégré, où chaque morceau se transforme à nouveau en persécuteur. Le moi n'a pas seulement peur du spectre de la fragmentation, cet objet lui inspire également un sentiment de tristesse. On repense à la perte émanant de cet objet, une perte que le moi peut instituer, qu'il pourrait instituer ou qu'il instituera comme conséquence de son propre penchant à la destruction. La penchant à la destruction forme donc le problème pour le sujet. Et même si l'agression est indissociable du fait d'être humaine, la façon dont ce penchant destructeur est vécu et dirigé varie énormément. En effet, il peut devenir la base d'un sens de la responsabilité non moralisée, un sens de la responsabilité que je conçois comme cherchant à protéger autrui de la destruction. C'est précisément là l'alternative au sadisme moral, à la violence éthique, autrement dit, à une éthique de la pureté qui résulte du désaveu de la violence. C'est aussi l'alternative à l'ontologisation de la violence au niveau d'un sujet qui serait si structurellement rigide et dont les conséquences seraient si déterminées qu'il serait incapable d'un engagement éthique consistant à protéger la vie d'un autre. On constate ici une distinction importante entre le sadisme moral et la responsabilité. Si le sadisme moral est un mode de persécution qui prétend s'élever au rang de vertu, la responsabilité telle que je viens de la décrire assume l'agression ainsi que la nécessité éthique de trouver une solution non violente à ces demandes. Et ce, non pas par obéissance à une loi formelle, mais précisément afin de protéger autrui contre un potentiel destructeur. Afin de protéger la vie précaire d'autrui, nous transformons l'agression en mode d'expression qui protège ce que nous aimons. L'agression limite ainsi sa permutation violente, se subordonnant à cet amour qui cherche à honorer et à protéger la vie précaire de l'autre. Pour Klein, comme pour Levinas, le sens de la responsabilité est lié à une anxiété ou angoisse qui reste ouverte, qui ne s'accommode pas d'une ambivalence par le désavoué, mais qui donne lieu à une certaine pratique éthique et même expérimentale et qui cherche à préserver la vie plutôt qu'à la détruire. Il ne s'agit pas d'un principe de non-violence, mais d'une pratique elle-même faillible, d'une tentative pour reconnaître la précarité de la vie et pour ne pas transformer cette vie en non-vie. Cela étant, je souhaiterais souligner deux choses. D'abord, la théorie de la responsabilité que j'ai esquissée dans le récit de soi n'est pas limitée à la seule philosophie morale. L'opposition éthique qui est élaborée n'est pas censée être abstraite des contextes sociaux et politiques ni d'une interrogation critique sur les normes. Deuxièmement, c'est à partir de scènes de conflits politiques qu'émerge avec insistance la demande ou l'appel éthique. Et ici, je m'écarte de Levinas, ou plutôt je lis Levinas contre lui-même. Ces deux domaines, l'éthique et le politique, sont bien sûr séparés et séparables pour Levinas, mais il est possible que ses propres exemples contredisent son argument et que la demande éthique ne puisse avoir de sens pour nous que dans le contexte du politique. Il semblerait que déjà quand nous rencontrons le visage d'autrui dans sa fragilité, comme étant ce que, potentiellement, je pourrais tuer, nous le découvrions au milieu d'une socialité où le conflit existe déjà, où de la violence a déjà eu lieu. Serais-je tenté de tuer l'autre si je n'étais pas déjà dans une certaine relation avec lui ou avec elle? Suis-je tenté de tuer l'autre parce qu'il ou elle est fragile, parce que mon désir de tuer émerge face à cette fragilité? Ou est-ce parce que je vois dans cette fragilité la possibilité de ma propre usurpation? Levinas le dit très nettement lorsqu'il explique, je cite, le visage d'autrui dans sa précarité et son incapacité à se défendre est pour moi en même temps la tentation de tuer et une demande de payer, de tu ne tueras pas. C'est ce visage d'autrui que je vois, mais c'est avec et contre ma propre violence que je dois lutter. Je suis contre l'idée que les questions de violence ou de non-violence relèvent de la seule politique et non de l'éthique. Je suis également contre l'idée qu'elles relèvent de la seule éthique et non de la politique. Ces questions nous amènent au croisement de l'éthique et de la politique où chacun de ces domaines est impliqué dans l'autre. C'est précisément dans le cadre d'une contestation sur le pouvoir que les questions se posent de faire violence ou pas. Ce n'est pas seulement le privilégié qui est en position de décider si la violence est ou non le meilleur choix. C'est également, paradoxalement et même douloureusement, l'obligation de celui qui est dépossédé d'avoir à décider s'il doit ou non se venger. Face à une violence d'État, de masse, par exemple, il peut sembler ridicule ou superflu de se poser cette question. Mais il se peut que, dans certaines circonstances, le fait de ne pas répondre à la violence par la violence soit la façon la plus efficace d'exposer la brutalité unilatérale de l'État. Je ne suis pas sûr que la non-violence sauve la pureté d'âme, de quiconque, mais au moins elle élabore ne serait-ce que de manière négative, un autre type de lien social. La violence de l'État s'articule souvent autour de l'institution d'un sujet souverain. C'est une situation à laquelle nous nous sommes accoutumés aux États-Unis, et peut-être est-ce aussi ce qui vous attend en France. Le sujet, il arrive, n'est-ce pas? Hein? Le sujet souverain se présente précisément comme n'étant pas celui qui est affecté par les autres, comme n'étant précisément pas celui dont les actions sont conditionnées et limitées par une vulnérabilité ou une capacité permanente et irréversible à être blessé. Une telle position souveraine non seulement renie sa propre vulnérabilité, mais elle s'efforce en plus de la resituer chez l'autre, en lui infligeant une blessure et en révélant ainsi sa vulnérabilité. Ce que je viens de proposer est une façon de décrire un certain type d'action violente qui aurait pour but de restituer en dehors du sujet comme étant la violence, la capacité à être blessé. L'acte violent, en ce sens, aurait pour effet d'inscrire celui qui est blessé au registre de la vulnérabilité et de donner l'impression que le sujet qui commet la violence demeure, lui, imperméable à cette violence. La production de cette apparence devient la précondition de la violence. Et l'on conçoit qu'un conflit sur la question de savoir qui est invulnérable à la blessure puisse inciter la répétition du conflit violent. La moralisation spécifique de cette scène a lieu quand la violence est justifiée comme étant légitime ou même vertueuse, même si son principal objectif est de maintenir pour des moyens à des structures une apparence impossible de maîtrise et d'imperméabilité. Le fait d'exposer la faiblesse et l'échec de cette prétendue souveraineté, néanmoins, établit la capacité à être blessé comme étant le point de départ d'une réponse éthique au cœur d'une scène de violence. Il est certainement possible de reconnaître sa propre capacité à être blessé en admettant la capacité qu'a n'importe quel sujet à être blessé. Cela obligerait une analyse de la victimisation et de ses diverses justifications. Pour ce qui nous concerne, cependant, il suffit de dire que la capacité à être blessé comme point de départ ne suffit pas à garantir une politique de la non-violence. Si un sujet particulier se considère, par définition, blessé ou même persécuté, alors il se peut qu'il ait produit une base permanente qui rende légitime ses propres actions violentes. Si le sujet souverain désavoue sa capacité à être blessé en la restituant chez l'autre comme un attribut permanent, alors le sujet qui est persécuté peut désavouer ses propres actions violentes puisqu'aucun acte ne saurait réfuter l'affirmation d'identité dans la victimisation. S'il y a une possibilité qui émerge ici, la non-violence, celle-ci aurait pour point de départ non pas une reconnaissance du fait que tous les peuples peuvent être blessés, aussi vrai cela soit-il, mais la compréhension des possibilités de nos actions violentes en rapport aux vies auxquelles nous sommes liés. Ce conflit n'a pas à proprement parler de solution. Il y a tout de plus une façon de vivre la difficulté de cette demande. Lutter contre la violence, c'est, pourrait-on dire, mettre l'agression au service de ce combat. Ce qu'il faut, c'est réorienter l'agression, l'orienter vers la lutte contre la violence et non pas vers la violence. Ce déplacement veut dire que nous nous engageons à être interpellés par ceux dont la vie exerce une demande sur nous. Pour ce faire, il faut intervenir de façon critique dans ces normes qui déterminent de façon différentielle quelles vies sont considérées véritablement comme telles. Il n'est pas nécessaire pour cela de savoir à l'avance ce que sera une vie, mais seulement de trouver et d'encourager ces modes de représentation et d'apparence qui rendent possible le revendication de vie. L'éthique, ce n'est pas un calcul, mais une conséquence du fait qu'on s'adresse à nous et qu'on peut s'adresser à nous de façon viable. Savoir s'il faut faire ou ne pas faire violence, c'est une question qui ne se pose comme question éthique que dans un rapport, à un tu, objet potentiel de ma blessure. Mais s'il n'existe pas de tu, ou si l'on ne peut entendre ou voir ce tu, alors il n'existe pas de relation éthique. On peut perdre ce tu par des attitudes exclusives de souveraineté ou de persécution. En particulier lorsque personne ne reconnaît être impliqué dans la position de l'autre. Tracer une voie entre le craint d'être tué et la tentation de tuer, c'est remettre en question aussi bien la demande d'une maîtrise souveraine que celle de la persécution permanente. Et c'est donc remettre en question certains des modes de rationalité qui nourrissent la guerre et en Irak et au Moyen-Orient. Tracer cette voie, c'est bel et bien vivre cette voie, cette impasse et trouver un mode de comportement qui ne cherche pas à résoudre l'angoisse de cette position en une décision. Ne pas agir, c'est après tout une façon de se comporter, c'est même un mode de résistance. Merci.
J'avais oublié, je vous prie de m'en excuser, je prie Judith de m'en excuser, de la remercier par avance, je le fais donc en retard, du choix qu'elle a fait, qu'elle a bien voulu faire, de s'adresser à nous en français et de lire ce texte qu'elle a rédigé pour cette circonstance. Merci beaucoup Judith. Alors les questions sont ouvertes si vous voulez. Et alors Judith souhaite... nous en avons parlé, souhaite que les questions soient en français.
Ah
oui,
c'est
vrai.
Pas de problème.
C'est vrai?
Oui, mais je reprends en anglais probablement.
Voilà.
Silence.
Bon, alors, puisque c'est un peu l'usage pour permettre que vous ayez le temps de fourbir vos questions et de les dégrossir un peu, je voudrais faire part de mon très grand étonnement, non pas seulement ce soir, mais ce soir, ça le confirme, ça l'amplifie, de voir, Judith, mon étonnement, je suis étonné de voir que après que vous avez réfléchi de façon si engagée dans les questions les plus violentes, les plus dures de notre temps, aussi bien la violence de la vie personnelle, de la vie sociale et collective, que la violence politique, je suis très frappé du fait que vous choisissiez de poser la question de la non-violence, comme vous l'avez dit, au croisement entre éthique et politique. Ceci est à la fois, à mes yeux, mais je parle de la façon que j'ai de vous entendre, à la fois très étonnant dans le contexte idéologique, théorique qui nous entoure, et en même temps, pour ma part, je sens à quel point c'est lié à ce qui nous est nécessaire et à ce qui nous vient. Je voulais vous demander si, dans cette réflexion sur la non-violence, comme elle est venue là, est-ce que vous avez eu, à un moment ou à un autre, du goût ou du désir de lire les théoriciens de la non-violence ? Est-ce que vous avez eu besoin de lire, ou est-ce que vous avez trouvé quelque chose avec, je ne sais pas moi, avec les, je ne sais pas, avec Gandhi, avec la non-violence, qui est non-violence politique, éthique et politique, et il n'y a pas le seul, il y a eu plusieurs théories. Est-ce que ça vous a été nécessaire ? Est-ce que ça vous a été utile ? Quand ? Quand est-ce que c'est venu ? Pourquoi c'est venu ou pas ?
Well, I don't think, oddly enough, I don't think I'm interested in a philosophy of nonviolence.
Okay. J'avais déjà entendu. Oui, on l'avait dit.
I know that there are philosophies of nonviolence, and I think one should study philosophies of nonviolence. But for me, I'm interested in a moment or a scene that recurs within political conflict. And it's the moment, I think, of revenge. So maybe my text is Agamemnon. I don't know how you say that in French.
Agamemnon?
Yeah, right. Maybe. The question of when it is that one is hurt and is just obviously justified by virtue of being injured, hurt, to respond. How it is that sometimes another response becomes possible. And I think to understand this moment, which is a moment in all kinds of political conflicts, in the Middle East, in Iraq, in certainly in various places where we see vengeance recurring, I think one needs certain resources, maybe Greek tragedy, maybe psychoanalysis, maybe a little Levinas, but to think through the possibility of a different response or a non-response. And I think it means as well suspending the idea of reciprocity, and not having reciprocity as the basis of one's ethic. It's not a reciprocal exchange, and it may well be a question of insisting on the non-reciprocal exchange. So, you know, it's suicidal, but it might be equally suicidal to enter into revenge, right? So why not choose this suicide rather than the other? It's a joke, terrible joke.
Est-ce que les réponses en anglais, ça va à peu près? Ça alourdirait considérablement la séance si on essaie de traduire, donc si... Ça va aller à peu près, pour ne pas trop... Mademoiselle ou madame, oui, je vous en prie. Moi, par exemple, je n'ai pas entendu la question.
Yeah. So, of course, in Levinas, the ethical relation is dyadic. It is a relationship that is inaugurated by the face of the other and a response to that face, an obligation that is communicated by that face. And when he moves from the sphere of the ethical to the political, there are not just two terms, but three, he says. And it's the political domain for him is the domain in which we think about equality and the distribution of goods and universality. And then we are no longer in a face-to-face with the other, but we are living in a social and political plurality. But I think that I'm less interested in his way of making the transition from the ethical to the political, because even when he describes the ethical, and we see this with Esau and Jacob and Esau, there are always these questions of, do I kill the other? The other is coming to kill me. Do I get up early in the morning to make sure I kill the other first? The other is coming with an army. Do I defend myself? What do I do against this army? So these are already examples that come from war. So they're political examples. They're examples from war that we find in the midst of the description of ethics. So in this sense, I think his examples contradict, they speak against his explicit theory. And for me as well, I think that that these ethical moments emerge in sites of conflict, which are socially situated and politically situated. So I would reverse the relationship between politics and ethics in Levinas. So you asked as well about revenge. Well, I think there's a question of self-defense, and there's a question of revenge. The other is going to hurt me. I must defend myself in advance. The other has already hurt me or those I love. I must take revenge. The question is whether one is still beholden to an ethical demand to preserve the precarious life of the other, even when the other has persecuted me or those I love. And it's an open question. I think we cannot vanquish that question. I think we cannot simply eliminate that question as naive or impossible. I think we have to continue to pose the question. We may not always answer it in one way or another. We may sometimes say that life should be extinguished, or I will extinguish that life. But it seems to me we must have the struggle with that question. We cannot foreclose the struggle.
Speak too much. C'est trop difficile en anglais.
Parlons lentement, c'est bien. Okay. En parlant lentement, c'est bien.
Okay. Lentement.
Ouais.
Plus lentement. Les autres.
Madame, oui.
Then, if we think about the way the world order works today, which is consensus, sort of I give you this and I get that there's sort of a reciprocity there. So, how would you bridge that gap? How would you reconcile this idea that in order to achieve nonviolence, we need a non-reciprocal system, but at the same time, the way we work, politics, international law, it's all based on consensus, on opinion.
I thought it was based on power, on struggle and power and hegemony. But you have a good question. The question is, if you're in a conflict in which both sides continue to be violent, and yet it seems to me that at a certain point a decision has to be made to enter into a deliberation which presumes nonviolence or which requires nonviolence. Right? What allows for the transition? Now, you could say that simply self-interest allows for the transition from violence to nonviolent consensus. But I think, in fact, there's a moment of sacrifice, as sacrificing one's own desire to kill, that actually allows for a certain kind of transition. It's a different account than the one that would simply account for it in terms of self-interest. And so I want to make a call to that other mode of transition. The sacrifice of aggression, meaning the struggle against it. In a way.
Madame? Elizabeth. Merci. Vous pouvez parler lentement, s'il vous plaît, et très très lentement. Si vous parlez en anglais, très aussi lentement que Judith. Merci.
One question is linked to the one that we just asked. What is your thought? Are your thoughts on the self-defense movement? Mm-hmm. Understanding that your thinking is linked to a present moment, but what are your thoughts on that? And the second thing was. Would your analysis apply just to non-response in the form of a symbolic one? Do you think the feminist movement, the question hitting the symbols? And what are your thoughts on that?
I'm all in favor of hitting the symbols. I think that's brilliant. And in fact, women's self-defense is extremely interesting, right? Because if you at least in the United States, and I think in several countries. The practice of self-defense involves using the aggression of the attacker against himself, right? So it involves an impurity, right? One has to become involved in the aggression in order to stop the aggression. And it's not about it's about giving up as well the purity of the position of victim. Right? It's about entering the aggression and recircuiting it, reworking it, in order to arrest, to stop, and cease the violence of the other. But not necessarily to do the other harm. And learning that distinction, right? Working aggression against the aggressor to stop the aggression is very different from doing harm to the aggressor. I think this is crucial. It's for me the moment of ethics. So, yes, maybe what I'm saying derives from this movement.
François, se bat là-haut. Vas-y, lève-toi.
Donc, je travaille sur le temps. J'aurais deux questions. La première, alors, si j'ai bien compris, en plaisanterie, vous avez dit, d'ailleurs, du coup, c'est le choix entre le suicide et le suicide. Le suicide dans le cycle de la violence, de la vengeance. Ou alors le suicide dans l'ouverture, l'exposition à l'autre, qui lui peut être violent.
Oui, c'est ça.
Et je me demandais, chez Leibniz, il me semble aussi que l'alternative n'est pas forcément comme ça, si justement, pour ce qui est de l'exposition à l'autre, évidemment de manière totalement non calculée, de manière sur laquelle on ne peut pas compter dessus, l'irruption de l'autre, c'est aussi. C'est un mot que vous ne prononcez jamais, c'est l'infini aussi. C'est l'infini, c'est-à-dire c'est l'irruption du sens. On ne veut pas compter dessus, mais chez Levinas, il peut y avoir cette dimension eschatologique. C'est pas forcément le suicide. On ne peut pas calculer être sûr que ce ne sera pas le suicide, mais si le monde a un sens. C'est que le visage de l'autre, dans la grande violence qu'il est, soit aussi éventuellement autre chose que la production de violence. Alors ça m'amène à ma deuxième question, qui est la suivante, c'est jusqu'à quel point faut-il distinguer deux types de violence dans le discours de Levinas. La violence que le Conatus et Sandy produit, que chaque mois égoïste que chaque produit dans la réduction de l'autre. Et justement, la violence qui est celle de l'autre, qui depuis sa vulnérabilité, effectivement, est interpellation est absolument trop rapide.
Oui.
Et donc, mais là, il y a deux violences,
oui.
Deux formes de violence. Jusqu'à quel point on peut les distinguer, jusqu'à quel point il faut les nommer du même nom, on a raison de les nommer ou pas du même nom, et quelle est l'articulation entre les deux.
First of all, let me say that it is true that in will that the obligation I have to the other is not at least within the ethical domain is not calculable, right? I cannot calculate should I or should I not be beholden to the face of the other or be affected or even commanded by the face of the other. I am always already commanded, and I cannot calculate it. When I start to calculate it, I move into the political, right? Calculation is the sign of the political, right? So what I'm trying to do is maybe take some of what is articulated within the ethical and resituate it within the political. So what would a politics be in which my obligation to the other is incalculable? I think that Derrida also asked this question in an interesting way.
Sure.
Now, I want to say, secondly, that that Levinas says a couple of different interesting things. I mean, once, for several times, he cites the Talmud and says, in the Talmud it says, if you know that someone is coming to kill you and your family tomorrow, you should get up very early and you should be ready for them and you should kill them first. Okay. So he cites that particular example of not only self-defense but preemptive self-defense. Right? So how does that work with the incalculable demand that the face makes on me, right? These are tensions in Levinas. He doesn't have to be completely coherent. It's okay with me. But these are tensions in Levinas. Maybe I'll just leave it there.
Oui, madame, mademoiselle, madame. Non, ça va, mais fort et lentement. Bah, c'est par là.
Briefly, interestingly enough, I don't want this to be all about Levinas. Levinas is only one part. But let me say this about Levinas. The face, interestingly enough, does not have to be the face, doesn't have to be literally the face. In fact, at one point he says, it's not the human face. It can be a cry, he says, it can be the back of the neck, it can be anything which signifies human vulnerability. So the body could be the face. I think that I want to say as well that there are that at the beginning of the paper I'm working with a certain idea of norms and the norms that constitute the subject. Now, it stays very abstract, but what I'm trying to think about are communities in which violence becomes the norm, right? In which there's violence in the family, or violence in the street, or where violence is already the norm. And then what comes of that? And what I'm against is a certain kind of sociological determinism, which would say that one is produced necessarily by the violent norms, and can only reproduce those norms, the norms of the community. I don't like the automatic or deterministic mode of that account. So how does one find a certain kind of agency or a capacity to turn, to detournement, you know, of that situation? So I'm trying to enter maybe a sociological scene with this question of where and when one finds the possibility of the detournement. And I think how we answer that would involve going very carefully into various contexts, right? It could be the banlieue, it could be any number of places, and then my theory would also have to revise in light of what one finds.
Mais Judith, quel est le mode d'existence des normes? Comment est-ce qu'elles existent?
Existent.
Est-ce qu'elles n'existent pas, en fait, je ne sais pas, mais est-ce qu'elles existent, est-ce que...
existent.
Oui, elles existent.
Existence, c'est une bonne question. Bonne question. I think they exist in their efficacity. Right? They exist in their action. They act upon us. They don't... I mean, we can find them codified in law and policy and in all kinds of informal codes, but they don't really exist until they act, and they act upon us in some way. So in their exercise, they exist.
Super.
Ouais,
parfait. Monsieur.
Non, je veux dire que les normes, c'est un peu comme les rapports sociaux. Enfin, le moment de leur existence et le moment de leur reproduction, ils existent en se reproduisant.
Non. You said they exist in the reproduction? Yes, except that the process of reproduction is not always predictable. So I want us to be careful there, you know, because many notions of reproduction, of many theories concerning the reproduction of norms, situate them in a social order, delimit that order, and then show how there is this quasi-mechanistic reproduction. And I think this is a mistake. It's why I think the Derridean idea of iterability needs to enter into our idea about the social reproduction of man. It's a temporal and errant process.
Oui, avant je vous en prie.
How would you apply your analysis to the truth and reconciliation practice in South Africa?
It's a good question. I have two thoughts, and I'm ambivalent, I'll tell you honestly. The first thought is that the aim of the Truth and Reconciliation Commission is for those who have been injured or dispossessed to tell a story and to receive public recognition. These are two very interesting, important accomplishments. And this can work, I think, to offer public acknowledgement in the place of continued violence, right? It is the solution It is posed as a kind of solution to violence and an alternative to violence. However, it also very often works to make sure that those who were hurt or dispossessed cannot make legal claims. So it can be another form of dispossession and another form of disenfranchisement. And I worry about this because it seems to me to be caught in those two realms. But this is a slightly different question than what I can deal with here. I wonder whether it doesn't presume that the sphere of public recognition is separable from the sphere of law, and I'm not sure they can ever be fully separable.
Oui, mademoiselle.
Oh, well, it's not mine either.
I don't know if it is a question or an opinion, but I wanted to. I don't know if I understand. When you talked about ethics, at a certain point, it seemed to me that probably by abstraction, you talked about the aggressive part and the non-aggressive part. So it seemed to be kind of. It seemed to me, in any way, that if we talk about political sphere, the abstraction of an aggressive part and the non-aggressive part, it brings back the Hegelian dialectic of what is violence and what it should be the analysis on violence. And I would say that more than the dialectic methodology, it might be more useful nowadays the deconstructivist way of look at things, in the sense that if we deconstruct the power of the aggressive part, it might be better if we deconstruct the power or the statute or the. And I think, though, that this is not a non-violent way of face the enemy or the other or.
I try to be careful not to commit myself to any ontology of the subject that would say there's an aggressive part and a non-aggressive part. I do not know anything about these ontologies. I do want to simply start, without any commitment to a full theory of the affective human subject, with the idea of a destructive tendency or destructive possibility. It doesn't have to be at war with another part. It doesn't have to be the only thing we can say about the human psyche or its dispositions. But let's just say ça existe. It exists, right? Because it's efficacious. So I'm not interested in an opposition between a violent part and a non-violent part, and then a Hegelian resolution of the opposition. I'm interested in how aggression itself can struggle against itself and requires its aggression to struggle against itself. And in that sense, I want to say that ethics is a struggle, a lute, it's even a combat of a certain kind, and that the impasse that is produced by aggression, shall I harm this other, shall I kill this other, shall I not, is one that can only be addressed through marshalling aggression against aggression, or marshalling aggression in some way to produce at least a struggle that is something less than action, something less than violent action, a check on violent action. So maybe what I've done is deconstruct the opposition between the violent and the nonviolent part, because I see the struggle for nonviolence to be a struggle that engages violence and aggression necessarily. It's not peaceful.
Encore une question? Ou deux, je sais pas. Oui, mademoiselle, madame.
Oui. Comment on peut faire la pour la non-violence dans des pays où vraiment il y a une politique de violence, justement, on a des sous-colombiens, des femmes mexicaines, on travaille tous autour de la non-violence, mais c'est un peu difficile dans un pays où il y a vraiment l'attitude de la légitimation de la violence.
Okay. So she wants to know how you would struggle for nonviolence where in such places where violence is legit.
Yes, in Colombia, legitimate. Colombia, in South America, Colombia, Mexico.
Yeah.
She comes from Colombia.
Yeah.
From
yeah.
South America. Yeah. Where the violence is legitimated by the power. It's a way of work.
Well, there are many issues. I think, one thing I'm not dealing with here are certain extreme asymmetries of power, right? What is the violence of resistance versus the violence of occupation? What is state violence versus the violence of insurrection? So, this is a limit to this paper, but I decided to write a very short paper because I gave it in French. That's a bad excuse, but that's my excuse. So that would be a different kind of question. What I want to point out is that when we say that in a place like Colombia that violence is a legitimate mode of politics, we then have to ask, what is the means through which that legitimation reproduces itself? In other words, it doesn't become legitimate at one point and then stay legitimate. It has mechanisms in place for the reproduction of that legitimacy. So how and when is violence reproduced, and what are the modes of intervention that can be made or are made into its reproduction? Right? It can be hegemonic, but that doesn't mean that it has a kind of determinism to it. And I think it's interesting, even in Colombia, I mean, one could look at the ways in which the church works. You could look at the way in which non-governmental organizations work. One could look at the way in which cultural transactions with neighboring countries work to bring in different modes of intervention. The practical question of how a nonviolent politics might take hold as legitimate is, I think, a very interesting one. But I think we need to keep in... It would be a mistake to think, in order to be politically efficacious, I must enter into violence because violence is the only legitimate form of politics. The problem is to produce other modes of legitimacy, and that should be what the struggle is. But... this is very, again, abstract and impoverished as a response to you, given the complexity there.
Oui, ben peut-être la dernière question, si vous voulez bien.
Oui.
Read the definition, the theory of responsibility once more, she said. Oh. Said thank you. Theory of responsibility. Mm.
Est-ce que
que je peux détourner la question de façon absolument intéressée, mais détourner, vous savez comment on détourne un fleuve, et vous demandez, est-ce que la théorie de la responsabilité, est-ce que c'est une théorie? Je dis ça parce que c'était notre...
Ok. Je voudrais détourner la question encore. Non, j'essaie de répondre. Very often when we ask for a theory, we look for a definition or a model that we can apply, or a definition that we can possess, put it in our pocket and leave, and then you receive something from your lecture by Judith Butler, and then you can take it out at night and look at it, and this is the theory. So, but I don't have that to offer. I don't have that to offer. I only have a certain set of questions which seek to change the framework. And the one question I'm asking is whether we can think about responsibility in ways that are not the same as moralization, a politics of virtue. Can we think about it that's not the same, that does not require a sovereign subject? Can we think about it in ways that also relieve us from the idea of permanent victimization? So I'm trying to identify a site, a moment, a scene, in which a certain struggle to be ethical takes place. And I want to call the struggle responsibility. Right? Not so much the result, like this person is responsible, or that was a responsible act, and that was a responsible person. That's for someone else to do. But the struggle that I'm trying to identify, which is the struggle with aggression and in relation to the precariousness of life, this strikes me as the scene of responsibility. Now, where we go with that could be any number of ways, right? And indeed, you and I have to decide what to do. We have to decide all kinds of ethical questions. But I'm less interested in that problem now, although I am interested in that problem, we are all interested in that problem, than I am in delimiting the scene of struggle that I call the scene of responsibility. I don't know if that is a theory. I think it's a theoretical inquiry. It's a questioning. It's an opening up of the framework in a way that resists certain conventional ways of framing the problem of responsibility. And if that is a theory, then fine, I performed a theory.
Avant que nous puissions ensemble, si vous le voulez bien, remercier encore une fois Judith, je voudrais simplement, permettez-moi simplement de dire que ce groupe de recherche théorique, c'est aujourd'hui la dernière séance, continuera ses travaux l'an prochain. Et j'espère de façon aussi heureuse que c'est la façon dont il les termine cette année. Encore une fois, donc, de notre part à tous, merci beaucoup.
Merci à vous.